coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Je regarde bien Alex Zouleux.
Avec l'attaque d'Antichlec là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché.
Et il est littéralement
affouillé,
comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe.
Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en ce dimanche 30 juin, on a une semaine du Tour de France pour vous parler des championnats nationaux, surtout du championnat de France, mais on va également parler, on va dire quelques mots sur les autres championnats. Donc pour ma part, c'est Benjamin avec moi ce soir pour parler des championnats nationaux. Théo, bonsoir Théo.
Bonsoir tout le monde.
Mais également l'accent du sud-est, l'accent marseillais, Greg, bonsoir Greg.
Bonsoir tout le monde.
Et enfin, Charles, bonsoir, Charles.
C'était quoi ce bonsoir tout le monde de Greg, là?
Ouais, ça va.
Salut à tous.
Il y a eu un titre de champion national pour Delco, c'est la joie du côté de Marseille. Donc, on va commencer par le championnat de France, et on va parler de la course en ligne avec la victoire de Warren Barguil devant Julien Simon et Damien Touzet de la Cofidis, tous les deux. Une course, vite fait, on va dire ce qui s'y est passé. 37 coureurs qui sortent aux alentours du troisième tour. Et tout simplement, c'est de ces 37 hommes, que la victoire va se jouer avec un peloton qui a été mené par les Total Direct Energy, mais qui n'a jamais quand même pu rentrer. Même s'il a été relancé par quelques coureurs, notamment un Thibaut Pinot très très fort. Charles, commençons avec toi. Qu'est-ce que tu retiens en premier lieu de ce championnat de France? La victoire de Warren Barguil, le raté de quelques autres équipes, les Cofidis qui échouent à la place de 2 et 3 sur le podium, ils n'ont jamais remporté un titre de championnat de France de leur histoire. Alors, dis-nous tout.
Ouais, tu as cité pas mal de choses, Ben. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de rebondissements pendant cette course. Et moi, la première chose que je voulais citer, c'était le scénario. J'ai trouvé la course vraiment plaisante. L'écart a vraiment fluctué. À un moment, c'était 3 minutes. On pensait que ça irait au bout. Ça a redescendu. Après, c'est remonté. C'est redescendu ensuite. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment plaisant parce qu'on savait pas trop à quoi s'en tenir. Et ça nous a tenus en haleine tout au long de la retransmission TV. Et rien que pour ça, je trouve que c'était une course vraiment qui était plaisante à suivre. Quoi.
Une très belle course, Théo. Hein, on a pu. Est-ce qu'il y a des péripéties de la course qui t'ont marqué?
Il y a surtout le final qui a été très intense. Les 15-10 derniers kilomètres, en fait, à partir du moment où on sait que ça va se jouer devant, je pense notamment à la chute des AG2R, et que même la réalisation se focalise quasiment sur ce qui se passe derrière, même là, ça a été très décousu avec des coureurs qui semblaient très forts, comme Valentin Madouas, qui arrive à s'extirper, mais derrière, ça arrivait toujours à s'organiser pour rentrer, et la fin aussi était très, 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 très intéressante, notamment dans le petit faux plat, 2 km d'arrivée, on voit Barguil attaquer, partir comme une fusée, on se dit que c'est terminé, et même là, ça aurait été une belle course, et finalement, il semble planté, ça revient avec Madouas et Guillaume Martin, et Barguil arrive quand même à suivre, Martin attaque, enfin voilà, ça sortait de partout, et surtout, ce qui fait aussi qu'on a eu une belle course, c'est qu'on a un très beau champion de France, et honnêtement, enfin, je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, mais ça fait plaisir de voir Warren Barguil qui va aller en juillet sur les routes du Tour avec un autre champion de France. C'est pas pour dénigrer des coureurs comme Angelo Tulik ou Julien Simon, mais c'est vrai que voir un champion de France qui peut genre jouer avec les meilleurs dans l'école du Tour, ça n'arrive pas souvent.
Merci Théo. Greg, toi, est-ce que tu as tout autant aimé ce championnat de France? Je vois que Baptiste nous dit sur les commentaires, ce final aurait directement figuré dans le top 10 des finales les plus haletantes de la saison de feu Vélo Chrono, dont il faisait partie à 50% du jury à l'époque.
Tout à fait, c'est une très belle course, un très beau vainqueur. Comme l'a dit Théo avant, on va voir Barguil, un coureur dont on attend quelque chose sur le tour avec un maillot bleu, blanc, rouge. Ça fait toujours plaisir. Voir un pur grimpeur aussi en bleu, blanc, rouge, ça fait aussi plaisir. Ça fait longtemps. Alors, peut-être remonter quasiment à Luc Leblanc en 92. J'insisterai aussi sur l'absence d'oreillettes. Alors, on a vu une course assez désorganisée. Les équipes avaient beaucoup de mal à gérer malgré le fait qu'elle soit parfois très représentée. Ben c'est au moins sur les championnats de France, il y a toujours 45 FDJ, j'exagère un peu, mais un grand nombre de coureurs par équipe. Et malgré ça, ils n'ont pas pu contrôler la course comme ils l'entendaient. On a vu même parfois discuter à l'avant du peloton, est-ce qu'on roule, est-ce qu'on roule pas sur l'échappée. Et donc ça aussi, je pense que ça a joué hein, dans le fait que cette course soit agréable à suivre. Le fait que sans oreillettes, c'est difficile de s'organiser, même avec des équipes très fortes et en surnombre.
Tu as bien raison. C'est vrai que plusieurs l'ont souligné également sur le forum, cette absence d'oreillettes qui a pu jouer également dans cette course. Ben, pour ma part également, j'ai beaucoup aimé, quoi. C'était vraiment très intéressant. Comme a dit Charles, c'était très intense du début à la fin. Il y a eu un petit moment, mais ce n'était pas encore commencé à la retransmission, où l'écart était à 3 minutes 30, on pensait que ça n'allait pas bouger. Et finalement, ben, les contre-attaquants sont venus jusqu'à 40 secondes sans jamais pouvoir rentrer. Charles, on a pu voir, notamment pour ceux qui avaient Eurosport qui a pris l'antenne avant France Télévisions, que c'est certes la victoire de Warren Barguil, mais c'est également une victoire pour Arkea, qui à un moment était toute seule en tête à rouler. Les Groupama avaient arrêté de rouler, du coup les Cofidis, les G2R également. On a vu un fort collectif dans cette équipe qui est souvent décriée autour de leur leader, qui ben, finalement récompense cette équipe.
Ouais, c'est vrai que c'est un gros coup de chapeau à Arkea Samsic parce qu'ils ont pris la course en main. Tu l'as dit, pour ceux qui ont eu la chance de regarder l'épreuve sur Eurosport, ça a été les seuls à essayer de maintenir un peu cette échappée en vie parce qu'ils savaient qu'ils avaient leur leader au sein de cette dernière. Et on doit pour une fois ouais, souligner le collectif d'Arkea Samsic. Alors, pour rester sur cette équipe, moi, je ne sais pas si vous avez, enfin, ou si nos auditeurs ont écouté Warren Barguil qui était invité lors de l'émission des Rois de la Pédale d'après-course. Moi, j'ai trouvé un Warren Barguil assez touchant, en fait, qui expliquait qu'il avait vraiment mal vécu les critiques de l'an passé, qu'il avait failli arrêter le vélo. Enfin, on sentait qu'il n'était pas revanchard, mais qu'il avait été blessé et qu'il avait envie de. Enfin, qu'il fallait que ça sorte, qu'il avait besoin d'expliquer que ça avait été compliqué pour lui. Et je trouvais que ça faisait du bien, en fait, ce genre de discours un peu humain où on se rend compte, en fait, que les coureurs, ce n'est pas forcément des machines et qu'ils ont aussi des sentiments.
Feu d'ailleurs qui dit Barguil est très à fleur de peau. C'est Théo, c'est vrai que quand on entend Barguil, il est sans.
Sans filtre.
Allez, mince. Sans filtre, merci, j'avais perdu. Que ça plaise ou pas d'ailleurs, hein, dans les deux sens.
Ouais, il est sans filtre, il est à cran. Je me rappelle de l'an dernier, quand ça allait pas à son début de saison, il répondait directement aux gens sur Strava. Voilà, là après l'arrivée, il pense tout de suite aux critiques qu'on a eues sur lui. Je pense que il fonctionne un peu comme ça. Et il est très, bon, j'ai pas envie de dire premier degré, mais il travaille pas sa communication. Et bon, je veux pas me mettre à dos.
T'as vu peut-être, non?
Tant mieux, ouais.
Bah, tant mieux, mais après le problème
par rapport lui, je sais que certains ont critiqué ici, ben, je crois que notamment toi, la communication de Bardet qui est très très plate dans un sens. Ben un peu comme Calmejean, Barguil, ben, alors des fois on se moque de lui, mais au moins ça fait vivre le vélo, non?
C'est vrai, mais le risque c'est que ça lui retombe dessus, un jour ou l'autre, parce que bon, il gagne, il est aux anges, il en profite pour faire un peu toutes les rageux, mais le problème c'est qu'un jour il sera de nouveau moins bien, et du coup il va avoir une pluie de critique et il va le vivre vraiment très mal, et je pense que même pour lui, ça serait bien qu'il arrive à prendre un peu de distance. Mais bon, après moi je dis ça depuis mon canapé, il a gagné, tant mieux pour lui, et je pense que mon avis ce soir sur sa communication, Barguil il s'en fiche. Mais
Greg, quelque chose à ajouter sur Barguil?
Non, comme on a discuté, c'est vrai que tu me disais avant, il fait un peu penser à Virenque, hein, dans son style... un petit peu, enfin, Théo l'a dit, un petit peu soupolé, un petit peu à fleur de peau, qui a réagi fort, voilà. Et après tout, peut-être aussi, tu as raison, le vélo en a besoin, des gars comme ça.
Mmh. Ouais, mais c'est vrai que moi, il me fait penser à Virenque, ben, par ses talents de grimpeur, également un peu par le faciès, si on regarde le visage, et également ben, parce qu'il marche à la confiance, au public, quoi. Hein. Donc, je pense qu'avec ce maillot de champion de France, ça ne pouvait pas mieux tomber pour le Tour de France, et même pour la suite de la saison qui arrive, mais vraiment sur le Tour de France, il ne tombe pas. Je pense qu'on peut vraiment voir un grand Warren Barguil. Charles.
Ouais, juste pour finir là-dessus, moi je trouve ça super cool que Warren Barguil il dise ce qu'il pense et qu'il s'énerve un peu contre toutes les critiques et nous les premiers, même si nous, je pense qu'il s'en fout réellement de ce qu'on peut penser, mais c'est bien.
C'est donc pas un zozo.
C'est donc pas un zozo, non. Enfin, nous, on sait que nos auditeurs apprécient vraiment qu'on dise ce qu'on pense et qu'on n'ait pas de langue de bois par rapport aux coureurs, par rapport aux courses, etc. Donc on peut pas reprocher non plus un coureur de faire preuve d'un petit peu d'honnêteté. Enfin, je trouve que ça fait du bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le discours de Romain Bardet, qu'on sent qu'il est millimétré, école de commerce, etc., machin. Et bah, ça fait du bien. Des fois, c'est peut-être maladroit. Et Théo a eu raison. Hein. Je pense que bon, malheureusement, des fois, Warren Barguil, peut-être qu'il est un peu trop à fleur de peau par rapport à tout ça et qu'il doit forcément en souffrir, comme il l'a expliqué sur le plateau des RP. Mais ouais, ça fait du bien quoi, de voir des mecs un peu qui disent ce qu'ils pensent en fait.
Alors, avant de parler des fails, des ratés de ce championnat, il y a un autre coureur, pourtant esselé, qui a crevé l'écran parce qu'il était à deux doigts de remporter le titre également. C'est un pur grimpeur, comme Warren Barguil, finalement, sur un circuit qui n'était pas si dur que ça. Greg, c'est Guillaume Martin, qui a échoué à 100 mètres du bonheur.
Ben oui, il était dans la bonne échappée, on l'a vu... rester jusqu'au bout et sortir à la fin, parce qu'évidemment, c'était probablement le moins bon sprinter hein, de tout l'eau. Donc, il a attaqué sur la fin, à quelques mètres près, quelques centaines de mètres près. Il aurait pu gagner, et un peu comme Barguil, hein, c'est assez rassurant de voir un grimpeur, un coureur qu'on va retrouver sur le Tour de France, eh bien, aussi en forme. Lui qui a fait, ceux qui ont fait l'effort de venir, justement, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après, eh bien, se sont illustrés.
Tout à fait. En plus, j'ai suivi la course de Guillaume Martin, car c'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Et j'ai trouvé que sur les deux, trois derniers tours, il faisait beaucoup d'efforts à devoir combler les trous à l'arrière du groupe. Et qu'il puisse quand même attaquer, c'était quelque chose de très fort. Théo, Barguil, Martin, Pinot également, les grimpeurs français qui étaient présents sur ce championnat, semblent avoir la bonne patte.
Oui, c'est encourageant en vue du tour. Pour revenir sur Martin un tout petit peu, même si justement il a été très fort parce que c'est pas une course qui correspondait à son profil, on a encore vu quand même aujourd'hui son principal défaut, même s'il sort bien au kilomètre, c'est une attaque un peu en surprise, mais il en a fait avant dans des bosses, et on voit que c'est vraiment un grimpeur et qu'il manque de punch sur les petites bosses comme ça, mais du coup le fait d'être passé aussi près de la victoire, c'est encore plus méritant pour lui. Et pour revenir sur Pinot, on l'a vu vraiment sortir, et même dans le petit groupe de compte, voir sortir tout seul. Techniquement, c'était un peu n'importe quoi, mais je me demande si...
C'était totalement n'importe quoi.
C'était pas simplement pour faire des efforts, quoi, parce qu'il est en train de préparer le tour, il est en stage, il vient pour les championnats pour respecter la course. Du coup, il fallait quand même qu'il sorte un peu. En plus, quand il est tout seul, il y a moins de risque de chuter dans une... Enfin, parce qu'on a vu qu'il y a une chute derrière, c'était pas plus mal au final.
Ah ouais, je pense qu'il était en mode ça passe ou ça casse, Pinot, quoi.
Oui, et c'est vrai que comme dit Théo, finalement, ça l'a peut-être préservé de la chute qu'il y a eu dans le peloton. Au moins, il a fait des efforts, il a tenté. Rien à se reprocher, finalement. Puisqu'en plus, il n'y avait pas les oreillettes, donc ça n'a pas forcément influencé devant ce qui s'est passé. Donc voilà. Un autre coureur que j'aimerais féliciter, c'est une équipe dont on ne parle pas forcément souvent bien ici. C'est Quentin Paché. Mais Quentin Paché, de toute façon, c'est peut-être le coureur dont on parle le mieux de l'équipe Vital Concept B&B Hotel, qui a fait honneur à sa formation. Peut-être qu'il a un peu mal couru sur le dernier tour à sauter sur tout le monde, mais c'était peut-être Charles, parce que c'est un coureur qui gagne pas souvent. Je crois qu'il a pas gagné, ou alors très peu chez les pros. Forcément, mais il voyait le titre qu'il pouvait remporter, et du coup, il a peut-être couru un chien fou.
Ouais, Quentin Paché, c'est un peu la seule satisfaction du groupe grimpeur de Vital Concept. D'ailleurs, je ne vais pas trop dévier là-dessus, mais c'est rigolo. Je crois qu'on en parlait entre nous cette semaine. On se rend compte que finalement, chez Vital, c'est les mecs de l'an dernier qui brillent, et les recrues, c'est pas du tout ça. Mais pour revenir sur Paché et sur le final du championnat de France, je pense que ouais, forcément, ça gorbageait dans sa tête. Enfin, les 6 mecs ou 7 mecs, je ne sais plus, qui étaient devant, ils disaient putain, je suis à 5 bornes d'un titre de champion de France. Il n'y avait pas vraiment de favoris dans le groupe. Donc, il suffisait d'une attaque bien placée, comme on l'a vu avec Alexis Renard sur la course espoir, pour que ça passe et qu'il y ait un peu la victoire d'une vie, entre guillemets, quoi, comme ça avait été le cas pour Steven Tronay il y a quelques années. Donc, même s'il y a eu des petites erreurs tactiques, peut-être de la part de Quentin Paché, qui a peut-être sauté un petit peu trop sur tout le monde, on ne peut pas forcément lui reprocher, parce que de toute façon, il fallait faire quelque chose, il ne pouvait pas rester, sachant qu'il n'a pas forcément une pointe de vitesse très élevée, il ne pouvait pas rester dans le fond et ne rien faire. Quoi. Il fallait tenter, il fallait essayer. Bravo à lui. Quoi.
Lui qui avait enfermé Glazik dans la voiture Vital Concept.
Un service rendu à la nation.
Mais du coup, il y avait Poupette ou Choupette qui est venu remplacer... Glazik pour supporter l'équipe Vital Concept. Pour venir sur Paché, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est que effectivement, je trouve qu'il courait beaucoup devant en fait dans le groupe. Il était jamais derrière en train de filocher pour se faire oublier. Alors qu'un gars comme Angelo Tulip, dont on n'a pas parlé, l'a parfaitement fait, même si bon, il était un peu moins fort. Mais le truc, c'est que dans le groupe, il y avait deux Cofidis, et je pense qu'on peut revenir dessus.
Oh oui,
et que
bah,
quand il y a deux mecs d'une même équipe dans un groupe au final, quand ça se regarde un peu, il faut laisser un des deux mecs faire le trou, il ne faut pas courir. Enfin, généralement, c'est ce que les coureurs expérimentés font, et peut-être que Paché n'a pas su profiter du surnom de la Cofidis.
Je crois qu'il avait surtout peur de laisser partir notamment Valentin Madouas ou Warren Barguil ou Guillaume Martin, les trois qui ont vraiment attaqué dans le final, et du coup de se retrouver à être en contre seul et faire deux ou trois, quoi. Mais par contre, parlons maintenant des Cofidis, donc ils font deux et trois. Ben, forcément, quand une équipe fait deux et troisième, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc ben, tout d'abord, je vais dire que pour eux, on a vu qu'au dernier tour, quand même, ils étaient limites, hein, surtout Damien Touzet. Mais quand même, il y a eu un gros souci, Greg. Moi, ce qui m'a surpris notamment, c'est que ben justement, quand il y avait des attaques, ce n'était pas eux qui allaient, forcément. Et surtout, sur le dernier tour, ils n'ont pas placé une seule attaque, même sur le plan.
C'est vrai, oui, c'est difficile à comprendre, hein, leur stratégie sur la fin de course, que ce soit tout le dernier tour, pourquoi il n'y en a pas un qui a tenté, ou pourquoi même le sprint qui a amené l'autre, on a l'impression qu'ils ont hésité, qu'ils doivent amener qui, ils ont hésité quasiment jusqu'à la fin. Et on a l'impression que même à la fin, ils n'étaient pas d'accord, ils en discutaient encore. Donc, c'est même plus, voilà, plus que le fait d'attaquer ou pas, peut-être qu'ils avaient, enfin, il y en a peut-être un qui n'avait pas les jambes. Finalement, aucun ne s'est sacrifié pour l'autre, ou il n'y a pas eu d'organisation. Donc, c'est dommage pour eux, parce que là, on va en parler, hein, pour un coureur, pour qu'ils assurent quasiment la victoire de sa vie, ça fait partie de ce type de coureur, que ce soit pour Julien Simon ou Damien Touzet, ça serait leur plus grande victoire et de loin.
Et ça aurait été le premier titre de Cofidis qui n'y arrive pas. Damien Touzet, quand même, qui semble prendre marque pour l'avenir, Charles.
Oh ouais, Damien Touzet, c'est un bon petit coureur. Je crois que c'est Jackie Durand qui signalait sur le plateau des RP, encore une fois, qu'il avait fait des beaux efforts sur le Ingo Egem. Pardon, je vais écorcher le nom de la course, je suis vraiment désolé. Mais ouais, c'est un bon coureur. Et puis il est jeune, hein, enfin, il prendra de l'expérience, forcément, il en disputera. Obligatoirement d'autres, des victoires sur les championnats de France, mais au-delà de Cofidis, moi je voulais revenir sur le fail un peu des grosses armadas, entre guillemets. Je vais mettre de côté AG2R la mondiale, parce que avec la grosse chute de Cosnefroy et de Galopin, on peut pas forcément les blâmer, parce qu'ils avaient, j'imagine, ce plan de placer Tony Galopin dans les meilleures dispositions pour le final, mais on a vu que la FTJ avait un peu couru à l'envers.
Groupama.
Ouais, la Groupama FDJ, pardon, a un peu couru à l'envers. Total Direct Energy, moi je pense sincèrement qu'ils auraient dû mettre le paquet à un moment plus tôt que de rouloter. Ils auraient dû faire redescendre Kemener, etc., qui ont absolument servi à rien dans le groupe de tête et qui se sont fait assez rapidement décrocher, en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Delco aurait aussi dû peut-être prendre un peu plus les choses en main à un moment, parce qu'on n'a pas vu non plus Rémi Rocas de trop. Et pour
Saint-Michel aussi.
Saint-Michel aussi, ouais, enfin.
Qui finit bien.
Parce que pour moi, quand tu es dans un gros groupe comme ça, à partir du moment où tu as des gros coureurs du type de Valentin Madouas, David Gaudu, Warren Barguil, Guillaume Martin, si tu fais pas partie de ces mecs-là, en fait, tu dois très vite réfléchir, je pense, et foutre le paquet pour revenir et pas leur laisser une chance, et ça n'a pas été le cas, et c'est un peu dommage. Ouais, Théo, je crois que tu voulais rebondir là-dessus.
Ouais, aussi, enfin, désolé, du coup, je reviens un tout petit peu en arrière, mais en fait, j'étais pas trop d'accord avec ce que vous disiez sur Cofidis, sur le mauvais coup tactique. Effectivement, ils ont pas attaqué, mais sur le papier, c'est les deux plus rapides. Touzet,
oui,
ça fait des années qu'il fait des top 10 sur des Coupes de France. C'est juste qu'ils auraient dû, choisir pour le gars qui était le plus frais et pas le gars qui avait le meilleur pedigree. Parce que Simon a un meilleur pedigree, mais Touzet avait l'air quand même un peu plus en forme. D'ailleurs, il lance le sprint, Touzet, en fait. Il finit par lancer le sprint, c'est juste que Simon a pas les cannes. Et Touzet remonte d'ailleurs presque Simon sur la ligne. Donc voilà, c'était juste pour ça. Enfin, je trouve pas qu'ils aient mal joué, juste à la fin. Et d'ailleurs, Touzet l'a dit, ils n'ont pas couru en fait avec Simon depuis le début de l'année. Ils étaient sur deux fronts différents. Du coup, bah, ils se connaissaient pas trop ou ils n'ont pas d'automatisme. Du coup, ça s'est mal fait.
D'ailleurs, c'était intéressant, ils étaient très lucides à l'arrivée, les deux Cofidis, ouais. Hein, en interview.
Mais d'ailleurs, c'était intéressant de regarder la tête qu'ils avaient sur le podium. On avait un Touzé qui était droit, le regard sévère, comme énervé, mais entre guillemets conquérant. Et il y avait Simon qui était par contre comme un petit garçon de 9 ans qui s'est fait attraper les dos dans la confiture et qui s'est fait engueuler. Il était un peu voûté et le regard triste. Je ne sais pas si Greg, toi aussi, ça t'a marqué. Toi qui es professeur, est-ce que tu as reconnu des gamins de ces regards sur le podium?
Surtout, vous voyez bien que Simon, ça n'allait pas quand même. Et que Touzé est un peu vexé, c'est vrai aussi. Ouais. Il y a un peu ce sentiment-là ouais, sur les visages.
Charles.
Ouais, puis Julien Simon, je crois qu'il est de 1985, donc il, si je ne me trompe pas, je trouve que je dis une grosse connerie,
quelle
mais.
Belle année.
Quelle belle année, je suis d'accord avec ça, absolument. Mais bref. J'en perds mes mots du coup, et ouais, je pense que bah, Julien Simon, il sait qu'il a laissé passer l'occasion d'une vie. En fait, je pense que au moment où il est sur le podium, j'imagine que peut-être la course défile, il s'aperçoit de l'erreur qu'il a fait, de l'opportunité qu'il a laissé passer. Il sait forcément qu'il n'en aura pas une autre, alors que Damien Touzé, lui, est peut-être un peu agacé, mais il a 22, 23, 24 ans, je ne sais plus exactement. Donc, il doit s'imaginer, comme je le disais un peu plus tôt, qu'il y aura forcément d'autres occasions à un moment.
22 ans. Il a 22 ans, il va avoir 23 ans.
Il a encore 10 ans au plus haut niveau, donc enfin, j'imagine qu'il y en aura d'autres, quoi.
Et pour Simon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est en fin de contrat en plus. Donc, en plus, il est un peu âgé. Avec un beau maillot de champion de France, ça aurait pu vraiment lui faire un beau dernier contrat avec 2 ans plutôt qu'un an. Donc voilà, je pense que ça joue aussi dans sa déception.
C'est possible.
Et pour revenir sur le fait des grosses équipes, tu n'as pas trop voulu incriminer AG2R. Alors effectivement, leur tactique, leur leader était resté derrière et il semblait revenir très fort avant la chute. Mais il y avait quand même des AG2R qui font une bonne saison, ou qui ont un beau moteur devant, et on les a pas du tout vus.
Ouais, Dorian Godon a explosé. Et Jorgi, ouais.
Et Jorgi fait une bonne saison, ça se voit pas trop, mais il a fait un top 5 en World Tour sur un arrivée au sprint, et dans les Coupes de France, il est souvent dans les top 10, et il a pété loin, quoi. Donc voilà, quand même une petite déception.
Ouais, ouais, il n'a pas dans le top 10 hein, d'âge de Zer, je crois.
Oui, ouais. Tout à fait.
Non, non.
Faut le faire
tout
quand fait, même. Hein.
Puisque le premier, c'est Clément Venturini qui fait une super saison, qui finit 12e. 14e Alexis Villermoz qui est 17e Michael Schirel. Villermoz qui sera peut-être du coup sélectionné. Je pense que ça va se jouer entre Villermoz et Goujard la dernière place, puisque Alexandre Géniès a abandonné. Alors je ne sais pas s'il a été pris dans la chute. Et Pierre Latour a fait le boulot dans l'échappée. Bon, après il pète, il se relève complètement, mais il était plutôt rassurant par rapport à ses dernières sorties. Et ça me permet de faire une superbe transition vers le contre-la-montre qui avait lieu jeudi. Contre-la-montre remporté de main de maître par Benjamin Thomas. Encore un jeune coureur de la Groupama. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les performances en tant que telles sur le contre-la-montre? Charles, notamment, tu avais été surpris du raté de Cavagna qui n'avait pas su du tout gérer sa course.
Ouais, ouais. Enfin, ça a fait un peu sourire forcément d'écouter l'interview après l'arrivée. Mais encore une fois, c'est plus facile avec le recul de le dire. Mais enfin, Rémi Cavagna, pour ceux qui n'ont pas suivi la course et qui n'étaient pas en France ces derniers jours, il y avait quand même une espèce de canicule. Il devait faire à peu près 40 degrés. Et il explique après l'arrivée qu'il était, tu me corriges hein Ben, parce que tu as écouté comme moi, qu'il était en gros pendant les deux tiers du parcours 10-20 watts au-dessus de sa puissance ciblée. En fait.
Il se sentait bien, il avait une limite fixée, ouais. Il l'a dit.
Donc pour ceux qui...
Je comprends pas, j'ai explosé, j'étais que 10 watts au-dessus. Mais...
Donc pour ceux qui pigeaient rien en watts, en fait il était en sur-régime malgré les 40 degrés. Et il pensait, enfin sa tactique c'était ensuite d'accélérer dans le dernier tiers pour faire un gros finish, quoi. Et ben, c'est vrai que quand tu écoutes un peu ça, tu te dis que ben, tu comprends pas trop la tactique, en fait. Enfin, il y a eu un petit manque de lucidité. Après, c'est assez curieux, parce qu'il a de l'expérience en plus maintenant, donc c'est pas... Enfin...
Bah, il le fait souvent, ça, quand même.
Ouais.
Être très bon au premier inter et loin à l'arrivée.
C'est le nouveau Chavanel.
C'est ça.
Mais il n'a pas été le seul. Hein. J'avais lu que Benjamin Thomas disait qu'à un moment, il avait perdu 60-70 watts d'un coup. Je pensais que c'était mort, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de coups de chaleur. Et Greg, ça me permet de poser la question, puisqu'il y a eu la polémique cette semaine. Est-ce qu'on n'aurait pas dû reporter le contre-la-montre, ou du moins le décaler à la matinée? Il y a eu beaucoup de malaise chez les femmes. On a vu les photos de nos photographes, de la souffrance terrible des coureurs sur la ligne d'arrivée, écroulés au sol. Est-ce que selon toi, le contre-la-montre aurait dû rester à cette heure-ci ou pas? Et avant de te poser la question, je rebondis sur l'Ariégeoise qui a eu lieu hier, et où il y a eu énormément de malaise, donc c'est des amateurs, hein, et il y a même eu un décès. Alors, est-ce qu'il aurait fallu déplacer ce chrono ou pas?
Bah, enfin, difficile à dire, enfin, le décaler, enfin, c'est compliqué de le faire en nocturne aussi, hein, ou le faire tôt le matin peut-être. À la rigueur, l'avancer au matin, mais après pour la télé, tout ça, c'est toujours très compliqué, donc il y a d'autres aussi obligations qui expliquent qu'il n'ait pas été...
Mais ça, tu me dis que c'est compliqué, mais toi, est-ce que tu penses, toi Greg, que ça aurait dû être déplacé ou pas?
Moi non, je n'aurais pas déplacé.
Messieurs, Théo ou Charles. Est-ce
qu'il y en a moi, je l'aurais mis le matin. Après, je comprends que ça soit compliqué. Hein. Greg a raison. Il y a des contraintes télévisuelles, il y a des plages horaires, etc. à respecter. Il y a aussi la route, tout simplement, où on peut pas, si on a prévu de bloquer une route à un moment, c'est difficile de dire bah non, finalement, c'est le matin. Enfin, il y a des autorisations, etc. Mais je trouve ça quand même un peu dommage parce que. Bah, les photos, t'en as parlé, Ben, c'est vrai que nos photographes ont fait un super boulot, elles ont fait des super photos à l'arrivée, enfin, c'était super, mais aussi marquant, et enfin, je trouve qu'on a un peu manqué de respect aux gars et aux filles, en fait. Quand tu vois l'état des athlètes à l'arrivée, enfin, moi, je tiens quand même à rappeler que enfin, c'est eux les héros du truc, entre guillemets, quoi, et c'est eux qui doivent être pris en considération, c'est leur santé qui doit être la plus importante, et... Enfin, je trouve ça un peu choquant qu'on fasse passer la télé ou des autorisations préfectorales, etc., avant la santé des athlètes, en fait. Enfin, je trouve ça un peu limite, parce que enfin, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on aurait pu aller jusqu'au cas extrême de la Liégeoise, parce que c'est quand même des gens entraînés qui sont suivis, etc., avec des médecins sur place. Mais enfin, voir autant de malaise, il y aura peut-être des séquelles, forcément, sur le court terme, des gens qui ont préparé des objectifs, etc., qui ont mis beaucoup de temps à récupérer. Enfin... Je trouve ça dommage. On doit le respect aux athlètes de manière générale. Et... Oh, excuse-moi, Greg, vas-y.
Non, ils auraient pu aussi aménager, pas des points d'eau, mais des points où on arrosait quoi, comme ils ont fait au Portugal l'année dernière. Mmh. Sur le tour du Portugal, il y avait à tant de kilomètres des points où ils arrosaient pour que le corps puisse se rafraîchir. Il y a aussi des moyens adaptés. J'entrais juste que il me semble que c'était en plus le contre-montre le plus long de tous les championnats nationaux. Il me semble que celui-là, c'était le plus long.
Oui, ils auraient pu raccourcir la distance, tout simplement, du coup. Si jamais.
Il me semble que les autres faisaient 30, enfin, entre 30 et 40, là c'était 47 km, donc c'est particulièrement long. Et donc ça rajoute aussi à la difficulté.
Que des fois on voit un espèce de weather, excuse-moi Ben, ouais, juste fini là-dessus. Des fois on voit un espèce de weather protocol qui est mis en place, alors qu'on ne sait pas trop pourquoi. Il y a quoi, un millimètre de neige où il y a un petit peu de vent, et on ne comprend pas pourquoi les courses sont annulées. Et là on a un vrai cas de figure en fait où la santé des athlètes est mise en danger, et ben non, quoi, enfin, on ne fait rien. Donc c'est.
Mais il n'y avait pas Patrick Lefebvre sur la course.
Donc il n'y a pas eu de tweet. Et...
Théo, toi, t'en penses quoi? Toi qui tanquilles des sorties sous le cagnard cette semaine.
Je vois pas trop quoi rajouter à part ce qu'a dit Charles. Et pour revenir sur les photos, si on veut donner une bonne image du sport, le sport c'est censé permettre d'être en bonne santé, qu'on voit l'état des corps alors que c'est déjà des champions à l'arrivée, c'est vraiment affolant, et au final c'est pas une publicité. Mais après, par contre, j'ai jamais organisé de championnat national, j'ai jamais organisé de course, je sais pas à quel point c'est embêtant, et peut-être que les organisateurs ont dû avoir le choix entre l'annulation pure et simple et parce que peut-être que c'était pas possible de décaler les horaires, voilà, je suspends un peu mon jugement parce que j'ai pas toutes les données du problème.
Pour ma part, non, on n'aurait pas dû décaler comme Greg, tout simplement parce que ça fait partie du cyclisme. Alors, je comprends que ce soit très dur, hein, qu'on soit d'accord, j'aurais pas aimé être à leur place, et j'entends que ça peut être dangereux. Il y a eu notamment les filles qui ont fait pas mal de malaise, puisqu'il y a les féminines qui passaient juste avant les hommes. Par contre, autour du Portugal ou autour d'un under, il y a des étapes qui sont plus chaudes. Alors là, c'était un contre-la-montre, donc c'est un effort très violent et soutenu. Donc je peux comprendre qu'il y ait cette volonté de réfléchir à annuler. Mais en plus, la chaleur en vélo, je pense que c'est moins compliqué à gérer, à prendre entre guillemets ce que je dis, que le froid. Le froid, plus tu roules, plus tu as froid. Vraiment, ça te transperce, c'est horrible. Mais quand tu fais du vélo, tu as l'air quand il fait chaud. Donc, je pense que non, on n'aurait pas dû déplacer. Et par rapport à la publicité que tu disais, Théo, du vélo, c'est également ces images de souffrance qui montrent la dureté du sport et qui peuvent être également une certaine publicité. Rappelle-toi, enfin, on parle encore du Gavia, si je ne me trompe pas, c'était bien le Gavia, sur le Giro de 1988. Alors, je vois qu'il y a Max dans les commentaires, il me dira, sous la neige. Alors là, par contre, c'est des conditions de trop, mais on en parle encore. Et c'est des journées comme ça qui rentrent dans l'histoire du vélo également. Voilà ce que je pense. Vite fait, un petit mot, parce qu'on va dépasser, là, il y a Baptiste qui ne va pas être content. Sur la non-participation au championnat, Greg de Bardet, de Alaphilippe, de Marc Fournier, de Arthur Vichot, pour des raisons diverses et variées, avec la FFC qui avait dit que c'était pas autorisé, mais il n'y a pas de sanction.
Il n'y a pas de sanction. Bon, c'est voilà. Un peu bizarre, ça, c'est peut-être la fédération a décidé, soit c'est obligatoire, soit ça ne l'est pas, mais a prendre une décision. Ouais, j'aimerais dire juste un mot sur Bardet, puisque pour lui, c'était parce que je suppose hein, qu'il n'avait pas les. Enfin, il ne s'imaginait pas pouvoir jouer la victoire, parce que c'était plutôt pour un puncher, s'il était dans les Alpes, c'était compliqué de se déplacer, etc. Oui, j'entends cette excuse, mais d'un côté, je remarque que finalement, ce qu'on a le plus remarqué aujourd'hui, c'est Barguil, c'est Guillaume Martin, c'est Pinot, des joueurs qui, comme Bardet, bien, on les attend en montagne sur le Tour de France et jouer le rôle de leader sur le Tour de France. Et je parlais du côté moral, on a ça rend un peu le comme préparatoire du personnage de Bardet qui prépare tout scientifiquement. Tout est calé au millimètre près, donc non, on se déplace à Nantes, donc là c'est pas bien, c'est pas pour moi. Alors que finalement on a des coureurs peut-être plus spontanés avec Barguil, avec donc Pinot ou Martin, et qui peut-être se sont dit bon, on y va, après, avec les copains aussi, parce que le championnat national c'est ça, ça les 20 coureurs de Groupama qui sont là, les 20 d'AG2R qui sont là, hein, avec la famille et tout, puisque c'est presque les vacances scolaires, donc il y a tout le monde qui est là, et c'est un petit peu aussi la fête du vélo français. Peut-être que voilà, il y a le côté moral, enfin le côté aussi de donner un petit coup au moral, voir les copains, qui peut voilà, que ça pourrait être un peu plus sympa.
Charles, Théo, quelque chose à ajouter?
Ouais, vas-y Théo. Ouais.
De base, en fait, je m'en fichais un peu de la non-venue de Bardet et d'Alaphilippe. Je trouvais pas ça scandaleux. Je trouvais juste que la fédération était un peu ridicule à imposer des trucs sans être capable de les appliquer. Mais ça semble être une spécialité des institutions dans le domaine du cyclisme. Mais après, je suis d'accord avec ce que vient de dire Greg. Effectivement, c'est peut-être dommage de ne pas profiter de ça. Et même pour un organisateur de championnat, on sait qu'il ne court pas les rues. Et je pense que ça aurait fait plaisir de voir des grands noms. Mais encore une fois, je pense que c'est pas grave. Même si Bardet ne vient pas, même si Alaphilippe ne va pas, il y a quand même Pinot, il y a quand même Barguil. C'est pas la mort. Je comprends pas trop la volonté d'imposer aux coureurs de participer à cette course. À ces courses.
Comme dit Katmapey, la course était aussi bien même sans Bardet et Alaphilippe. C'est vrai que ce qu'on a retenu au début, c'était que la course était bien. Bardet n'a pas fait la course parce qu'il était en stage dans les Alpes. Il s'est inquiété des grosses sorties qu'on peut retrouver sur Strava. Avant de clore cette émission, mais parlons rapidement des autres championnats nationaux. Avec Charles, notamment, une razzia de la Bora.
Ouais, la Bora a fait une vraie razzia. Alors, si je ne me trompe pas, parce que j'avais un peu la tête dans le guidon aujourd'hui à rentrer tous les résultats. Forcément, il y avait beaucoup de championnats nationaux. Mais en Autriche, c'est Patrick Conrad qui s'impose. Je crois que c'est sa première victoire pro, d'ailleurs, nous disait Baptiste très justement il y a quelques heures. Ils font un triplé en Allemagne où c'est Max Scharmann qui s'impose devant je ne sais plus qui. Et c'est Schillinger qui fait 3. Juraj Sagan, le petit frère ou le grand frère, je ne sais plus, de Peter Sagan, remporte le championnat de Slovaquie. Donc pour la première fois depuis très longtemps, Peter Sagan aura son maillot Bora sur les épaules pendant le Tour de France.
Tous les coups, il va gagner la première étape.
Il va prendre le maillot vert et le maillot jaune.
Le maillot vert et voilà.
Et quels sont les autres titres chez Bora? J'en oublie.
Il y a Bennett
qui a gagné en Irlande, qui a devancé Eddie Dunbar, si je ne me trompe pas. Il y en a eu 6 en tout. Oui, vas-y, Théo.
David
Formolo qui fait un numéro en Italie, visiblement. Ouais. Et je ne vais pas avoir le dernier, j'ai oublié qui c'était.
Mais il y a également un vainqueur, pendant que tu cherches, Charles, Théo, un vainqueur d'une équipe où déjà on ne voit pas le maillot lorsqu'ils sont champions nationaux et qu'on va encore moins le voir jusqu'à octobre. Un éternel, un immourable.
Je vois que tu cherches. Valverde.
Oui.
qui a gagné en Espagne. Et je crois, j'ai lu ça sur le forum, je crois que c'est que la troisième fois qu'il est champion d'Espagne. Donc c'est pas beaucoup. Mais bon, après, effectivement, on risque de pas beaucoup voir le maillot. Je pense qu'il aurait aimé le laisser un coéquipier, mais après, bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu la course. À mon avis, s'il allait gagner, c'est que ses petits camarades de la Movistar n'étaient pas capables. Je crois que Jesús Herrada était très en forme et a attaqué pas mal de fois. Donc je pense que si Valverde a gagné, c'était parce que les autres gars de la Movistar étaient pas au courant. Et je regarde un peu le classement, et il y a beaucoup en Espagne, il y a beaucoup de gars qui sont de petites équipes.
Dans le top 10,
il y a Team Ucchio, des Fapel. D'équipe espagnole, d'équipe portugaise un peu trouble, c'est assez étonnant quand même comme championnat.
Il n'y a pas une grosse densité en Espagne au final de coureurs, donc on arrive vite fait à des trucs comme ça, quoi. C'est assez impressionnant.
Et savez-vous que Valverde n'est pas du tout le coureur le plus âgé à être champion national, puisqu'un
Finlandais, Arto
Vainionpa, je ne sais pas comment ça se prononce, est champion national.
Il y a trois reines qui viennent de mourir.
De 50 ans.
Et bien, devant son fils qui est quatrième.
D'ailleurs, puisqu'on parle de Scandinavie, qui est champion de Suède, j'ai pas trop suivi ça.
Je sais pas.
Théo, tu as une idée?
Les résultats sont pas arrivés. Non, bah, Tobias Ludvigsson a terminé deuxième derrière Lucas Eriksson, qui est champion pour la deuxième fois de suite, qui est un bon coureur, qui court pour Riwal, qui a fait un bon début de saison, qu'on voit un peu moins. Oui.
Ouais, la blague de Benjamin est tombée à l'eau, tant pis.
Oh là là.
Comme son classement d'ailleurs à Rivals Manager, je vous invite à aller le voir si vous voulez. C'est Acaillon le pseudo.
Je suis mieux que Cédric.
Mais bref, pour devenir un peu plus sérieux et pour faire un point complet sur les championnats, c'est Fabio Jakobsen qui s'impose aux Pays-Bas. En Belgique, c'est un peu une surprise. D'ailleurs, un coureur qui vient de signer chez Corendon il y a quelques semaines et qui fait une super période, c'est Tim Merlier, qui est un crossman. Je ne sais pas ce qu'on a oublié d'autre comme pays. C'est un peu une surprise en Portugal. Je ne me rappelle plus qui c'est.
Il y a Israël avec la belle image de...
Ouais, ouais, c'est toujours sympa, ce genre de truc. Guy Sagiv et sa copine.
Et sa femme. Et il faut qu'on dise son nom, quand même.
Je ne connais pas son nom, par contre. Et...
Vas-y, t'es ouais. Bon.
Greg, tu l'avais, non?
Non, attends, je cherche.
Pendant que vous cherchez, je continue avec la Slovénie, c'est Marco Kump.
Juste pour dire l'histoire, c'est qu'il rattrape sa femme qui courait chez les féminines, qui est championne également dans la dernière bosse.
Il s'appelle Omer Shapira.
Ouais.
Omer Shapira. Skypa,
Shakira.
Jeune gueule au Luxembourg.
Je vois que Baptiste, pas trompé de dosard Baptiste, quand même. Hein.
Ouais, Baptiste nous donne les champions parce que je crois qu'il veut que ça se termine cette émission.
En Norvège et en Pologne, il doit nous manquer. En Russie, c'est Vlasov qui fait une très belle saison.
Très belle saison, et qui sera pas apparemment sur le Tour de France.
Ouais, qui sera au Tour d'Autriche, Vlasov, et qui a signé chez Astana d'ailleurs, qui rejoindra Astana l'an prochain.
Et il
est dans quelle équipe?
Je sais plus.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Delco, quid de la Roumanie? Quelle place pour Grosu?
Terrible, 8e.
Sur combien de participants?
Reichenbach en Suisse.
En Suisse, ouais. Reichenbach en Suisse.
Un beau maillot sur le Tour. Hein.
Tout à fait. Il prend la suite de Morabito.
Et au Danemark, qui a gagné au Danemark? J'ai pas vu. Désolé, on a un peu.
Morkov.
Encore un titre pour Quickstep. D'ailleurs, c'était le champion sortant.
Je tout à fait. Moi.
Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour rapide de tout ça. On vous donne rendez-vous dès demain pour la présentation du Tour de France. Donc, quelle heure, Charles? 19h?
Je sais pas, 20h peut-être en semaine, comme ça, ça laisse aux gens un peu plus le temps. D'ailleurs, on aura un gros programme cette semaine, parce que Benjamin, dès mercredi, on sera en direct, peut-être avec Greg aussi, si Greg est dispo mercredi, on verra.
Le coin Cocorico, pour parler des Français sur le Tour de France. Normalement, toutes les sections sont tombées, donc on vous détaillera ce que les Français du Tour de France et qu'est-ce qu'ils pourront faire.
Et dès samedi, on enchaîne avec, comme l'an dernier, en fait, on vous l'a déjà dit lors de la dernière émission, je crois, on fera une émission par soir à 19h30 après chaque étape. Donc, en gros, on va enchaîner, je crois, sur 25 émissions d'ici la fin du Tour de France avec un final en apothéose, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, puisque Alex Pasteur sera avec nous le lundi 28 juillet, si je ne me trompe pas, le lendemain de l'arrivée du Tour pour débriefer toute la course. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Vas-y, Ben, pardon.
Petite annonce, suivez-nous parce qu'il y aura des invités tout au long du Tour de France comme c'était le cas l'an dernier. Et ça nous avait été demandé souvent, il y aura peut-être la première voix féminine des commissaires de course. Donc, restez connectés.
Oh là là,
c'est voilà. Teasing.
Allez, bonne soirée parce que je vois que Baptiste a le cardio qui s'affole là. Ça serait dommage de le laisser sur le bord de la route. À demain tout le monde, bonne soirée, portez-vous bien.
Bonne soirée, à demain.
À demain.
Max, hydrate-toi bien.